On va enchaîner, ben on va finalement rester dans le 19e siècle avec Mélanie Prochasson qui va nous lire quelques lettres de Gustave Flaubert à Louise Collet. Malheureusement, la nièce de Flaubert, lorsque Flaubert est mort, en voyant ses lettres, en a éliminé beaucoup. Beaucoup de lettres érotiques de Gustave à son amante, à sa maîtresse Louise Collet. Heureusement, il nous en reste quand même pas mal. Et Mélanie nous propose comme ça une balade dans cette correspondance. Donc on a peu de réponses de Louise Collet à Flaubert. Ça va être principalement la voix d'un homme. Mais quel homme, quel auteur majeur du 19e siècle. Love Me Tender à la cave poésie, ça continue.
Flaubert. J'ai en moi, au fond de moi, un embêtement radical, intime, âcre et incessant qui m'empêche de rien goûter et qui me remplit l'âme à la faire crever. J'aime l'art et je n'y crois guère. On m'accuse d'égoïsme et je ne crois pas plus à moi qu'à autre chose. J'aime la nature et la campagne me semble souvent embête. J'aime les voyages et je déteste me remuer. Louise. Tu aimes l'existence, toi. Tu respectes les passions et tu aspires au bonheur. Flaubert. Il n'y a rien de plus faible que de mettre en art ses sentiments personnels, dis-tu. Puisque tu m'aimes, je t'aime toujours. Londres, dimanche soir, 28 septembre 1851, à Louise Collet. Chère Louise, votre lettre datée de mercredi et envoyée à Croisset était arrivée ici avant moi. Par suite d'un système de voyage absurde adopté par ma mère, nous avons été 3 mortels jours à faire le voyage de Rouen à Londres. Enfin, hier au soir, samedi, nous sommes arrivés à 9h du soir. Je verrai dès demain matin votre libraire. Je pense, sans savoir pourquoi, qu'il faut d'abord aller chez le sieur Delicy. J'irai ensuite chez l'autre et vous tiendrai exactement au courant de l'affaire sans m'engager avec aucun d'eux avant de savoir quel est celui des deux qui en offre le plus. Suis-je intelligent en affaires, hein ? C'est l'air du pays qui me pénètre. Sanitairement parlant, je vais bien. Mon mal de gorge est passé. Mais j'ai tellement perdu l'habitude des voitures en Orient que celle de Rouen à Abbeville m'a éreintée. Quant à ma santé, cher ami, ne craignez pas que je la compromette ici. J'ai des intentions chastes, et sur cette matière, l'intention pour moi peut être réputée pour le fait. J'ai lu la moitié du volume de Diderot. C'est curieux et charmant par partie. Je vous le garderai quelque temps, car mon intention est de prendre des notes dessus. J'ai revu la Manche et l'ai traversée, bien entendu. La dernière fois que je l'avais vue, c'était à Trouville, en revenant de Bretagne, il y a 4 ans. Quoique j'ai passé les meilleurs moments de ma jeunesse à humer son odeur et à dormir sur ses galets, je garde tout mon amour à la Méditerranée. J'aime la couleur avant tout, et le calme, n'en déplaise aux gens poétiques qui préfèrent la tempête. Nous venons de faire une promenade au cimetière de Highgate. Quel abus d'architecture égyptienne et étrusque. Comme c'est propre et rangé. Ces gens-là ont l'air d'être morts en gants blancs. Je déteste les jardinets autour des tombeaux avec des plates-bandes ratissées et des fleurs épanouies. Cette antithèse m'a toujours semblé de basse littérature. En fait de cimetière, j'aime ceux qui sont dégradés, ravagés, en ruines, pleins de ronces, avec des herbes hautes et quelques vaches échappées du clos voisin qui vient brouter là tranquillement. Avouez que ça vaut mieux qu'un policeman en uniforme. Est-ce bête, l'ordre ? C'est-à-dire le désordre, car c'est presque toujours ainsi qu'il se nomme. Adieu, cher ami. Je t'embrasse sur les 2 joues et sous le menton à la plus grasse place blanche. À toi, Gustave. Croisset. Dimanche, 1h. 25 janvier 1852, à Louise Collet. Je commençais, pauvre cher ami, à être inquiet de toi quand j'ai reçu ce matin ta bonne lettre. De jour en jour, je remettais à t'écrire pour savoir de tes nouvelles et j'avais fixé ce jour-là comme le dernier pour en attendre. J'avais en tête que tu étais malade. Je t'envoie Saint-Antoine, un presse-papier et un petit flacon d'huile de santal. Il y en a les deux tiers de ma provision. Tu en verseras une demi-goutte sur n'importe quoi et tu verras ensuite quelle odeur. C'est le premier et le plus précieux parfum d'Orient. Comme je viens de t'arranger ce flacon, j'en ai un peu maintenant aux mains et cette senteur me rappelle les bazars du Caire et de Damas. Il me semble que je vais voir les chameaux s'agenouiller devant les boutiques ouvertes. J'ai peur que le Saint-Antoine ne se perde en route. Ce serait un jugement de la Providence définitif. Écris-moi donc aussitôt que tu auras reçu cette boîte que je mettrai moi-même demain au chemin de fer. Voilà deux dimanches que le jeune Bouillet me fait faux bond. Depuis le lendemain de mon arrivée ici, je n'ai donc vu âme qui vive. La Seine coule à plein bord, le petit bout des branches des arbres est déjà rouge. J'ai travaillé avec ardeur. Dans une quinzaine de jours, je serai au milieu de ma première partie. Depuis qu'on fait du style, je crois que personne ne s'est donné autant de mal que moi. Chaque jour, j'y vois plus clair, mais la belle avance, si la faculté imaginative ne va pas de pair avec la critique. Hier au soir, j'ai lu les deux premiers volumes du Don Juan de Malfille. Oui. Il y a du reste de grands efforts et par-ci par-là une phrase, mais que c'est peu corsé. Oui, fais ta comédie pour le gymnase tout de suite si tu as suffisamment mûri le sujet. Si les Français sont si difficiles qu'ils refusent ta pièce ou traînent trop en longueur, pourquoi ne la donnerais-tu pas à l'Odéon ? Tu devrais faire un drame féroce, en prose, quelque chose de fouetté et d'ardent. Il me semble que tu es capable de cela. Qui sait ? Tu n'auras qu'à tomber sur un bon sujet. Ça pourrait servir et partant te donner de l'argent. Je vais écrire à Henriette pour l'album. Et si elle n'en a pas à rien tirer et qu'elle ne voit pas en pouvoir tirer quelque chose, lui dire de me le renvoyer, car je ne peux lui dire de se faire débitante une à une d'autographe. Cela me semble délicat, qu'en dis-tu ? Au reste, ma pauvre vieille, si tu es gênée, veux-tu que je t'envoie 500 francs ? C'eût été avec Ducamp ou Bouillet que ça n'eût pas fait de difficulté, n'est-ce pas ? Je l'eusse déjà fait si je n'avais craint de te blesser. Il y a des traditions pour toutes ces choses-là que le plus indépendant observe. Si j'ai été toujours si discret sur ces matières, c'est que j'en devinais trop. C'est que je ne voulais pas gâter en te parlant le plaisir que tu avais à me voir. Bon, c'est surtout que je n'y pouvais rien. À ce propos, je regrette bien des choses. Enfin, ce qui est fait est fait. Voilà, je te le répète, ma vieille, j'ai une réserve de 1 000 francs, je t'en propose la moitié, t'aurais tort de refuser. Ta pièce de verre, la vieille, m'a émue. Le mouvement est beau, oh, fraîcheur du sang, etc. Quel dommage que ce verre, si forte qu'on dirait un départ la charmante idée qui suit. Eh bien, moi aussi, pauvre cœur, je pense à toi. Je t'aime, pauvre Louise, toi qui m'aimes tant. J'ai toujours le son de ta voix dans l'oreille et sur les lèvres, souvent, l'impression de ton col. Pardonne-moi le mal que je te fais. Je m'en fais bien plus à moi, va. Croisset, nuit de samedi, 1h, 20 mars 1852, à Louise Collet. J'ai été d'abord 2 jours sans rien faire, fort ennuyée, fort désœuvrée, très endormie. Puis j'ai remonté mon horloge à tour de bras et ma vie maintenant a repris le tic-tac de son balancier. J'ai rempoigné cet éternel grec dont je viendrai à bout dans quelques mois, car je me le suis juré, et mon roman qui sera fini, Dieu sait quand. Il n'y a rien d'effrayant et de consolant à la fois comme une œuvre longue devant soi. On a tant de blocs à remuer et de si bonnes heures à passer. Il y a aujourd'hui 8 jours, à 7h, je m'en allais de toi gluant d'amour. Comme le temps passe. Oui. Nous avons été heureux, pauvre chère femme, et je t'aime de toutes sortes de façons. Tu as fait vis-à-vis de Bouillet quelque chose qui m'a été droit au cœur. C'était bien bon et bien habile. Ça aura été son premier succès à ce pauvre Bouillet. Il se rappellera cette petite soirée toute sa vie. Ma muse intérieure t'en bénit et envoie à ton âme son plus tendre baiser. Non, je ne t'oublierai pas, quoi qu'il advienne, et je reviendrai à ton affection à travers toutes les autres. Tu seras un carrefour, un point d'intersection de plusieurs entrecroisements. Et d'ailleurs, est-ce qu'on oublie quelque chose ? Est-ce que rien se passe ? Est-ce qu'on peut se détacher de quoi que ce soit ? Les natures les plus légères elles-mêmes, si elles pouvaient réfléchir un moment, seraient étonnées de tout ce qu'elles ont conservé de leur passé. Il y a des constructions souterraines à tout. Ce n'est qu'une question de surface et de profondeur. Sondez, vous trouverez. Pourquoi a-t-on cette manie de nier, de conspuer son passé, de rougir d'hier et de vouloir toujours que la religion nouvelle efface les anciennes ? Quant à moi, je jure devant toi que j'aime encore tout ce que j'ai aimé. Et quand j'en aimerai une autre, je t'aimerai toujours. Le cœur dans ses affections comme l'humanité dans ses idées s'étend sans cesse en cercle plus élargi. De même que je regardais il y a quelques jours mes petits livres d'enfants dont je me rappelais nettement toutes les images, quand je regarde mes années disparues, j'y retrouve tout. Je n'ai rien arraché, rien perdu. On m'a quitté, je n'ai rien délaissé. Successivement, j'ai eu des amitiés vivaces qui se sont dénouées les unes après les autres. Ils ne se souviennent plus de moi, je me souviens toujours. C'est la complexion de mon esprit dont l'écorce est dure. J'ai les nerfs enthousiastes, avec le cœur lent. Mais peu à peu, la vibration descend et elle reste au fond. Croisset, nuit de jeudi, 1h, 16 décembre 1852, à Louise Collet. Qu'as-tu donc, pauvre chérie, avec ta santé ? Qu'est-ce que tous ces vomissements, maux de ventre, etc. ? Je suis sûre que tu as été tout près de faire quelques sottises. Je voudrais bien te savoir remise complètement. Mais qu'importe, je ne te cache pas que l'arrivée des Anglais m'a été une grande joie. Fasse le dieu des coïts que jamais je ne repasse par de pareilles angoisses. Je ne sais pas comment je n'en suis pas tombée malade, comme on dit. Je me mangeais le sang en souhaitant le tien. Mais la joie que j'ai eue ensuite m'a été, je crois, profitable. Depuis samedi, j'ai travaillé de grand cœur et d'une façon débordante, lyrique. C'est peut-être une atroce ratatouille. Tant pis, ça m'amuse pour le moment. Dussé-je plus tard tout effacer, comme cela m'est arrivé maintes fois. Je suis en train d'écrire une visite à une nourrice. On va par un petit sentier, on revient par un autre. T'aperçois-tu que je deviens moraliste ? Est-ce un signe de vieillesse ? Mais je tourne certainement à la haute comédie. J'ai quelquefois des prurites atroces d'engueuler les humains. Et je le ferai à quelques jours, dans 10 ans d'ici, dans quelques longs romans à cadre large. En attendant, une vieille idée m'est revenue, à savoir celle de mon dictionnaire des idées reçues. Sais-tu ce que c'est ? La préface, surtout, m'excite fort, et de la manière dont je la conçois, ce serait tout un livre, aucune loi ne pourrait me mordre, quoique j'y attaquerais tout. Ce serait la glorification historique de tout ce qu'on approuve. J'y démontrerais que les majorités ont toujours eu raison, les minorités toujours tort. J'immolerais les grands hommes à tous les imbéciles, les martyrs à tous les bourreaux, et cela dans un style poussé, à outrance, à fusée. Ainsi, pour la littérature, j'établirais ce qui serait facile, que le médiocre, étant à la portée de tous, est le seul légitime qu'il faut donc honnir toute espèce d'originalité comme dangereux, sotte, etc. Cette apologie de la canaillerie humaine sur toutes ses faces, ironique et hurlante d'un bout à l'autre, pleine de citations, de preuves, qui prouveraient le contraire, et de textes effrayants, ce serait facile, est dans le but, dirais-je, d'en finir une fois pour toutes avec les excentricités quelles qu'elles soient. Je rentrerai par là dans l'idée démocratique, moderne, d'égalité, dans le mot de Fourier, que les grands hommes deviendront inutiles. Et c'est dans ce but, dirais-je, que ce livre est fait. On y trouverait donc, par ordre alphabétique, sur tous les sujets possibles, tout ce qu'il faut dire en société pour être un homme convenable et aimable. Ainsi, on trouverait artistes, sont tous désintéressés, langoustes, femelles du homard, France, veut un bras de fer pour être régie. Négresses sont plus chaudes que les blanches. Érection ne se dit qu'en parlant des monuments, etc. Je crois que l'ensemble serait formidable. Il faudrait que dans tout le cours du livre, il n'y eût pas un mot de mon cru et qu'une fois qu'on l'aurait lu, on n'osa plus parler de peur de dire naturellement une des phrases qui s'y trouvent. Quelques articles, du reste, pourraient prêter à des développements splendides, comme ceux de homme, femme, ami, politique, mœurs, magistrat. Croisset, samedi soir, minuit et demi. 27 mars 1852, à Louise Collet. Tu aurais pu, chère Louise, te dispenser de te piquer pour ma malheureuse plaisanterie sur D'Arpentigny. Je n'étais pas convaincue qu'elle fût spirituelle, mais je ne me doutais guère qu'elle fût blessante et atroce, surtout. Est-ce là ce qui avait rendu ta lettre si triste? Tu n'as guère le mot pour rire, si de semblables sottises t'importent. Moi, je ris de tout. Même de ce que j'aime le mieux. Il n'est pas de choses faites, de sentiments ou de gens sur lesquels je n'ai passé naïvement ma bouffonnerie comme un rouleau de fer à lustrer sur les pièces d'étoffe. C'est une bonne méthode. On voit ensuite ce qui en reste. Il est trois fois enraciné dans vous le sentiment que vous y laissez en plein vent sans tuteur ni fil de fer et débarrassé de toutes ces convenances si utiles pour faire tenir debout les pourritures. Est-ce que la parodie même siffle jamais? Il est bon, et il peut même être beau, de rire de la vie, pourvu qu'on vive. Il faut se placer au-dessus de tout, et placer son esprit au-dessus de soi-même. J'entends la liberté de l'idée dont je déclare impie toute limite. Si cette longue glose pédantesque ne te satisfait pas, je te demande pardon de ma maladresse et t'embrasse sur tes deux yeux que j'ai peut-être fait pleurer. Pauvre cœur, pourquoi me troubles-tu une si bonne tête? Et c'est pourtant ce voisin envahissant qui m'a reçu, qui me garde et qui m'admire. N'importe. Tu m'as dit il y a aujourd'hui 15 jours, sur le pont royal, en allant dîner, un mot qui m'a fait bien plaisir, à savoir que tu t'apercevais qu'il n'y avait rien de plus faible que de mettre en art ses sentiments personnels. Suis cet axiome pas à pas. Ligne à ligne, qu'il soit toujours inébranlable en ta conviction, en disséquant chaque fibre humaine et en cherchant chaque synonyme de mot, et tu verras comme ton horizon s'agrandira, comme ton instrument ronflera et quelle sérénité t'emplira. Refoulé à l'horizon de ton cœur, au fond, au lieu de t'éblouir sur le premier plan, toi, disséminé en tous sens, tes personnages déclamatoires qui ne peut même se constituer nettement faute de détails précis qui lui manquent toujours à cause des travestissements qui la déguisent, on verra dans tes œuvres des foules humaines. Si tu savais combien de fois j'ai souffert de cela en toi, combien de fois j'ai été blessée de la poétisation de choses que j'aimais mieux à leur état simple. Quand je t'ai vu pleurer à la lecture des lettres d'amour faites par Madame Roger, toutes mes pudeurs ont rougi. Nous valions mieux l'un et l'autre, et nous sommes là, maigrement idéalisés. Qu'est-ce que ça intéressera? À qui ressemble cet homme? Pourquoi prendre l'éternelle figure insipide du poète qui, plus elle sera ressemblante au type, plus elle se rapprochera d'une abstraction, c'est-à-dire de quelque chose d'anti-artistique, d'anti-plastique, d'anti-humain, d'anti-poétique, par conséquent? Quelques talents de mots d'ailleurs que l'on y mette. Il y aurait un beau livre à faire sur la littérature probante. Du moment que vous prouvez, vous mentez. Dieu sait le commencement et la fin, l'homme, le milieu. L'art, comme lui dans l'espace, doit rester suspendu dans l'infini, complet en lui-même, indépendant de son producteur. Et puis, on se prépare par là dans la vie et dans l'art de terribles mécomptes. Vouloir se chauffer les pieds au soleil, c'est vouloir tomber par terre. Respectons la lyre. Elle n'est pas faite pour un homme, mais pour l'homme. Croisset. Jeudi 8 avril 1852, à Louise Collet. Je ne t'ai point fait de remarques particulières sur le style de ta comédie, que je trouve vulgaire. Je sais bien qu'il n'est point aisé de dire proprement les banalités de la vie, et les hystéries d'ennui que j'éprouve en ce moment n'ont pas d'autre cause. C'est même un grand effort que je fais que de t'écrire. Je suis brisée et anéantie. J'ai passé 5 heures sur mon divan dans une espèce de torpeur imbécile, sans avoir le cœur de faire un geste, ni l'esprit d'avoir une pensée. N'importe. Continuons. Je trouve donc que le style est généralement mou, lâche, et composé de phrases toutes faites. C'est de la pâte qui n'a pas été assez battue. L'expression n'est point condensée, ce qui, au théâtre surtout, fait paraître l'idée lente et cause de l'ennui. Et d'abord, tout le premier acte est une exposition. L'action se passe au second, et dès la première scène du troisième, on devine le dénouement. La dernière scène du deuxième acte est pleine de mouvements. Si tout était comme ça, ce serait superbe. La première scène, le monologue de la femme de chambre, est à tout le monde. Qui ne connaît ce plumeau, cette glace où elle se mire ? La seconde, avec le garçon de restaurant, est assez drôle en elle-même. Mais que d'abus de ça ! Et la plaisanterie du chantage est d'un goût médiocre. Quant aux deux personnages de Léonie et de Mathieu, je n'y comprends rien. Ils sont parfois très cyniques et d'autres fois très vertueux, sans que ce soit fondu. On se révolterait de ces mœurs-là qui sentent le macaire. Et puis, que de négligence. Je t'assure, pauvre chère Louise, que cette lecture m'est pénible. Je peux ne rien entendre au théâtre, mais quant au français en lui-même, il me semble que tu es là singulièrement sortie de tes habitudes littéraires. Cette scène entre le frère et la sœur est démesurée de longueur. On ne s'intéresse ni à l'un ni à l'autre, avec leurs projets de duperie, leur misère et les sentiments de fierté de Léonie, quoiqu'elle avoue jouer un rôle. La scène 4 est également longue. Le dialogue vers la fin, plus mouvementé. On est tout heureux de trouver quelque chose d'amusant. Les scènes 6 et 7 me semblent atroces et j'y trouve à peu près tous les défauts réunis. Quant à l'acte 2, mais qu'est-ce que c'est que cette femme qui reste pendant tout l'acte en scène à faire la sourde et muette trompant tout le monde, si ce n'est le spectateur qui est tendé de crier à l'auteur « Hé, elle vous trompe !» Quel besoin y avait-il de ce personnage ? En quoi est-il nécessaire à l'action et ce polisson d'acte à 13 scènes. Et puis, comme on s'embêtera à leur conversation par écrit, il faut éviter d'écrire sur la scène. Ça ennuie toujours à regarder. Cette bonne Madame de Loris, à laquelle on rarrange les oreillers, m'assomme et me révolte. Elle se joue indignement de ses enfants, dont la tendresse fera rire. Alors nous tombons dans la farce. Scène 3. Quel interminable monologue. Il faut faire des monologues, quand on est à bout de ressources, et comme exposition de passion. Mais ici, c'est pour nous parler de ce que nous voyons, c'est-à-dire la vie intérieure de ce château, inutile. Quant à l'oiseau que l'on dessine, le perroquet empaillé que l'acteur serait obligé de tenir à la main, il ferait pouffer de rire la salle, et suffirait à lui seul pour faire tomber un chef-d'œuvre. Comment cela se fait-il que tu n'aies pas vu cela ? Dans la scène 5, l'explosion de Léonie dépasse les bornes. Enfin, bref, toute cette pièce me fait une impression de délicatesse froissée. Pareille à celle que tu as ressentie si légitimement à la lecture de la bonne moitié de l'éducation sentimentale. J'arrête là mon analyse, car c'est, selon moi, une idée à reprendre complètement ou à laisser. Excuse-moi si je te choque en ce moment. Fais lire ton œuvre à Madame Roger, en qui tu as confiance, et tu verras, si elle est franche, que l'effet ne lui en sera pas moins agréable. Croisset, dimanche soir 11h, 19 septembre 1852, à Louise Collet. Tu me permettras, chère Louise, de ne pas te faire de compliments sur ton flair psychologique. Tu crois tout ce que la mère Roger t'a débité avec une bonne foi d'enfant ? C'est une poseuse, cette petite femme. La demande qu'elle a faite d'écrire à Bouillet équivaut, selon moi, au geste d'ouvrir les cuisses. S'en doute-t-elle ? Ici est le point difficile à éclaircir. Je ne crois ni à sa constitution dérangée par les excès du mari, ni aux nuits passées avec son esprit et avec son cœur. Et cela, surtout, ne m'a semblé ni vrai ni senti. Elle aime autre chose. La passion de tête pendant 10 ans pour Hugo me paraît également une blague cyclopéenne. Le grand homme l'a dû savoir, et dès lors, en profiter en sa qualité de paillard qu'il est, à moins que cette passion ne soit encore une pause. Remarque qu'elle ne fait jamais que des demi-confidences, qu'elle n'avoue rien relativement. Il y a au fond de tout cela bien de la misère. Qu'elle mente sciemment, il se peut que non. On n'y voit pas toujours clair en soi, et surtout lorsqu'on parle. Le mot surcharge la pensée, l'exagère, l'empêche même. Les femmes d'ailleurs sont si naïves, même dans leurs grimaces. On prend si bien son rôle au sérieux, on s'incorpore si naturellement au type que l'on s'est fait. Mais il y a d'autre part une telle idée reçue qu'il faut être chaste, idéal, qu'on doit n'aimer que l'âme, que la chair est honteuse, que le cœur seul est de bon ton. Le cœur, le cœur, le cœur. Oh, voilà un mot funeste, et comme il vous mène loin.
Ah oui.
L'envie de remonter chez toi le jour du prix, la voiture qu'on attend sous la porte, à la pluie, etc. Cela est vrai, par exemple, de même que l'embêtement du poids marital à porter. Mais elle ne dit pas que, sous lui, elle rêvait un autre homme. Et au milieu de son dégoût, peut-être y trouvait-elle du plaisir à cause de cela. Prédiction, ils se baiseront. Et au 72e coup sonné, elle te soutiendra encore qu'il n'y a rien et qu'elle aime seulement notre ami de cœur ou de tête.
Ah oui.
Ce brave organe génital est le fond des tendresses humaines. Ce n'est pas la tendresse, mais c'en est le substratum, comme diraient les philosophes. Jamais aucune femme n'a aimé un eunuque. Et si les mères chérissent les enfants plus que les pères, c'est qu'ils leur sont sortis du ventre et le cordon ombilical de leur amour leur reste au cœur sans être coupé. Oui, tout dépend de là, quelque humiliés que nous en soyons. Moi aussi, je voudrais être un ange. Je suis ennuyée de mon corps et de manger et de dormir et d'avoir des désirs. J'ai rêvé la vie des couvents, des ascétismes, des brahmanes, etc. C'est ce dégoût de la guenille qui a fait inventer les religions, les mondes idéaux de l'art. L'opium, le tabac, les liqueurs fortes flattent ce penchant d'oubli. Aussi, je tiens de mon père une sorte de pitié religieuse pour les ivrognes. J'ai comme eux la ténacité du penchant et les désillusions au réveil. C'est jeudi 4h du soir, 15 avril 1852, à Louise Collet. Je t'écris avec grand-peine, car j'ai depuis hier matin un rhumatisme dans l'épaule droite qui ne va qu'en expirant d'heure en heure. Ce sont les pluies de la Grèce, les neiges du Parnasse et toute l'eau qui m'a ruisselé sur le corps dans le sacré vallon qui se font ainsi souvenir d'elle. Je souffre raisonnablement et suis pas mal irritée. Si Madame Roger trouve bonne ta comédie, tant pis pour elle, Madame Roger. Ou elle manque de goût, ou elle te trompe, par politesse. À moins que je ne sois aveugle complètement. L'histoire de Madame Roger m'a réjoui profondément. L'infortuné n'en sait rien encore. Il est à Cagny au sein de ses lards. Voilà fort longtemps que je ne l'ai vu. Je le régalerai de la chose dimanche. Tu me dis que si tu étais un homme, tu serais indigné de voir une femme te préférer une médiocrité. Ô femme poète, que tu sais peu le cœur des mâles. On n'a pas 18 ans que l'on a déjà éprouvé en cette matière tant de renfoncements que l'on y est devenu insensible. On traite les femmes comme nous traitons le public, avec beaucoup de déférence extérieure et un souverain mépris en dedans. L'amour humilié se fait orgueil libertin. Je crois que le succès auprès des femmes est généralement une marque de médiocrité. Et c'est celui-là, pourtant, que nous envions à tous et qui couronne les autres. Mais on n'en veut pas convenir. Et comme on considère très au-dessous de soi les objets de leur préférence, on arrive à cette conviction qu'elles sont stupides, ce qui n'est pas. Nous jugeons à notre point de vue, elles ou leur. La beauté n'est pas pour la femme ce qu'elle est pour l'homme. On ne s'entendra jamais là-dessus. Ni l'esprit, ni le sentiment, etc. Je me suis trouvée une fois, avec plusieurs drôles, assez vieux, dans un lieu infâme. Tous, certes, étaient plus laids que moi. Et celui à qui ces dames firent meilleure mine était franchement vilain. Et il n'est pas question ici des dons de l'âme, poésie de langage ou force d'idée, mais du corps, de ce qui est appréciable à l'œil et au reniflement des sens. Interroge n'importe quel ex-bel homme et demande-lui si couché quelquefois avec une femme, il n'en a jamais trouvé qui se soit extasié sur les lignes de son bras ou les muscles de sa poitrine. Quel abîme que tout cela, et qu'importe le vase, c'est l'ivresse qui est belle. L'important, c'est de la voir. Qu'elle s'amuse avec son bon Hénaud, cette pauvre petite mère Roger. Qu'elle jouisse, triple jouisse, et fasse monter au garroger des cornes grandes comme des cèdres, tant mieux. La contemplation de certains bonheurs dégoûte du bonheur, quel orgueil. C'est quand on est jeune, surtout, que la vue des félicités vulgaires vous donne la nausée de la vie. On aime mieux crever de faim que de se gorger de pain noir. Il y a bien des vertus qui n'ont pas d'autres origines. J'ai vu dans ta lettre le père d'Arpentini jetant sur ta couche un regard d'arpenteur géomètre, estimant à vue de nez combien elle contenait d'hectares de plaisir. M'étais-je trompée ? Et le petit Simon que j'accusais il y a 4 mois d'aspirer au téton comme le nez du père ouvrier à la tombe, m'étais-je trompée ? Quel grand moraliste je fais ! Quitte à renouveler tes inquiétudes, je t'annonce que je vais encore aller à Rouen ce soir, chez mon frère. Depuis que ma mère a fait réparer son billard, ils sont d'une grande tendresse et viennent ici tous les dimanches, jusqu'à ce que quelqu'un autre caprice les en écarte. Adieu, mon pauvre cher cœur. D'où vient donc ta fièvre ? Est-ce régulier ? Prends du quinine. 1000 baisers sur tes yeux. À toi. Croisset, samedi soir, 24 avril 1852, à Louise Collet. Tu me dis que je t'ai envoyé des réflexions curieuses sur les femmes et qu'elles sont peu libres d'elles, les femmes. Cela est vrai. On leur apprend tant à mentir. On leur compte tant de mensonges. Personne ne se trouve jamais à même de leur dire la vérité. Et quand on a le malheur d'être sincère, elles s'exaspèrent contre cette étrangeté. Ce que je leur reproche surtout, c'est leur besoin de poétisation. Un homme aimera sa lingère, et il saura qu'elle est bête, qu'il n'en jouira pas moins. Mais si une femme aime un goujat, oh, c'est un génie méconnu, une âme d'élite, etc. Si bien que, par cette disposition naturelle à loucher, elle ne voit pas le vrai quand ils se rencontrent, ni la beauté là où elle se trouve. Cette infériorité, qui est du point de vue de l'amour en soi une supériorité, est la cause des déceptions dont elles se plaignent tant. Demander des oranges aux pommiers leur est une maladie commune. Elles ne sont pas franches avec elles-mêmes. Elles ne s'avouent pas leur sens. Elles prennent leur cul pour leur cœur et croient que la lune est faite pour éclairer leur boudoir. Le cynisme, qui est l'ironie du vice, leur manque. Ou quand elles l'ont, c'est une affectation. La courtisane est un mythe. Jamais une femme n'a inventé une débauche. Leur cœur est un piano où l'homme artiste égoïste se complaît à jouer des airs qui le font briller et toutes les touches parlent. Vis-à-vis de l'amour, en effet, la femme n'a pas d'arrière-boutique. Elle ne garde rien à part elle, comme nous autres, qui dans toutes nos générosités de sentiments, réservons néanmoins toujours in petto un petit magot pour notre usage exclusif. Assez de réflexion morale. Causons de nous deux un peu. Et d'abord, ta santé, qu'est-ce que tu as donc ? Plût à Dieu que le dire de Pradier sur ma calvitie fût vrai. Il repousserait. Mais je crois qu'elle n'a pas cet avantage d'avoir eu une cause aussi gaillarde. Non que je veuille me faire passer pour un invaincu, comme dirait Corneille. J'ai eu des lacs de Trasimène, mais il n'y a que moi qui peux le dire, tant la République a été complètement rétablie. Depuis 3 semaines surtout, mes pauvres cheveux tombent comme des convictions politiques. Je ne sais si l'eau taburelle les faisait tenir. Tu peux m'en envoyer encore 2 bouteilles pour essayer. Tu mettras dans le paquet la Bretagne, si tu veux. Pas ou garde-la, ça m'est égal. Que je te dise des tendresses, me demandes-tu ? Je ne t'en dis pas, mais j'en pense. Chaque fois que ta pensée me vient à l'esprit, elle est accompagnée de douceur. Mes voyages à Paris, qui n'ont plus que toi pour attrait, sont dans ma vie comme des oasis où je vais boire et secouer sur tes genoux la poussière de mon travail. En ma pensée, ils chatoient dans le lointain, baignés d'une lumière joyeuse. Si je ne les renouvelle pas plus souvent, c'est par sagesse et qu'ils me dérangent trop. Mais prends patience, tu mourras plus tard, plus longuement. Dans 1 an ou 18 mois, je prendrai un logement à Paris. J'irai plus souvent et dans l'année, y passerai plusieurs mois de suite. Quant à présent, j'irai quand ma première partie sera finie, je ne sais pas quand, pas avant 1 grand mois. J'y passerai 8 jours. Nous serons heureux, tu verras. Et puis, comment ne t'aimerais-je pas ? Pauvre chère femme, tu m'aimes tant. Toi, ton amour est si bon, si aveugle. Tu me dis des choses si flatteuses et qui ne sont pas pour me flatter, cependant. Si c'est la vérité qui parle en toi, si plus tard les autres reconnaissent ce que tu y trouves, je me souviendrai de tes prédictions avec orgueil. Si au contraire je reste dans l'ombre, eh bien tu aurais été un grand rayon dans ce cachot, un hymne dans cette solitude. Loin de toi, je suis ta vie, va, je le devine, je le vois. Et j'entends souvent dans mon oreille le bruit de tes pas sur ton parquet. D'ici, je regarde maintenant ta tête penchée sur ta petite table ronde où tu écris et ta lampe qui brûle. Croisset, dimanche soir, 11h. 1er août 1852. À Louise Collet. Après-demain, à cette heure-ci, je serai avec toi. Attends-moi. Mardi, vers 9h ou 10h. J'ai retrouvé la pièce des yeux et je te la porte. À toi, à bientôt, ton G. Ce sont de bonnes lettres, cela, n'est-ce pas ? Quoiqu'elles ne soient pas très longues. J'écrirai la prochaine avec moins de plaisir. 1000 baisers encore. Croisset. Dimanche, 27 mars 1853. À Louise Collet. L'impression que te font mes notes de voyage m'a fait faire d'étranges réflexions, chère muse, sur le cœur des hommes et sur celui des femmes. Décidément, ce n'est pas le même, on a beau dire. De notre côté est la franchise, sinon la délicatesse. Et nous avons tort pourtant, car cette franchise est une dureté. Si j'avais omis d'écrire mes impressions féminines, rien ne t'eût blessé. Les femmes gardent tout dans leur sac, elles. On n'en tire jamais une confidence entière. Le plus qu'elles font, c'est de laisser deviner. Et quand elles vous racontent les choses, c'est avec une telle sauce que la viande en disparaît. Mais nous, pour 2 ou 3 méchants coups tirés, et où le cœur même n'était pas, voilà le leur qui gémit. Étrange, étrange. Moi, je me casse la tête à comprendre tout cela, et j'y ai pourtant bien réfléchi dans ma vie. Enfin, je parle ici à ton cerveau, chère et bonne femme. Pourquoi ce petit monopole du sentiment ? Tu es jalouse du sable où j'ai posé mes pieds sans qu'il m'en soit entré un grain dans la peau, tandis que je porte au cœur une large entaille que tu y as faite. Tu aurais voulu que ton nom revînt plus souvent sous ma plume. Mais remarque que je n'ai pas écrit une seule réflexion. Je formulais seulement, de la façon la plus courte, l'indispensable, c'est-à-dire la sensation et non le rêve ni la pensée. Eh bien, rassure-toi, j'ai pensé souvent à toi, souvent, très souvent. Si, avant de partir, je n'ai pas été te dire adieu, c'est que j'avais déjà du sentiment par-dessus les oreilles. Il m'était resté de toi une grande aigreur. Tu m'avais longuement irritée, j'aimais mieux ne pas te revoir, quoique j'en eusse eu maintes fois envie. La chair m'appelait, mais les nerfs me retenaient. Et il sortait de tout cela une tendresse qui, s'alimentant par le souvenir, n'avait pas besoin d'épanchement. Je m'étais promis de m'abstenir de toi, tant j'avais éprouvé à ton endroit de sentiments violents et incompatibles entre eux. La bataille était trop bruyante. j'avais déserté la place. C'est-à-dire, j'avais enfermé sous clé tout cela, pour ne plus en entendre parler. Et je regardais seulement de temps à autre ta chère image, ta belle et bonne figure, par une lucarne de mon cœur restée ouverte. Et puis j'ai toujours détesté les choses solennelles. Nos adieux l'UCT. Je suis superstitieux là-dessus. Jamais avant d'aller en duel, si j'y vais, je ne ferai mon testament. Tous ces actes sérieux portent malheur. Ils sentent d'ailleurs la draperie. J'en ai eu à la fois peur et ennui. Donc, quand j'ai eu quitté ma mère, j'ai pris de suite mon rôle de voyageur. Tout était quitté, j'étais partie. Alors, pendant 4 à 5 jours à Paris, je me suis foutu une bosse comme un matelot. Et quand la France a disparu à mes yeux derrière les îles d'hier, j'étais moins émue et moins pensant que les planches du bateau qui me portaient. Voilà la psychologie de mon départ. Je ne l'excuse pas, je l'explique. 6 mars 1855, dernière lettre de Flaubert à Louise Collet. Madame, j'ai appris que vous vous étiez donné la peine de venir hier dans la soirée 3 fois chez moi. Je n'y étais pas. Et dans la crainte des avanies qu'une telle persistance de votre part pourrait vous attirer de la mienne, le savoir-vivre m'engage à vous prévenir que je n'y serai jamais. J'ai l'honneur de vous saluer. À toi, adieu, je t'embrasse, je te baisse partout, 1000 baisers encore. À demain, le plus tôt possible. Adieu, 1000 baisers sur ta poitrine, encore un long baiser. Je t'embrasse bien fort, je t'embrasse tendrement, comme je t'aime, ma vieille chérie. Adieu, je t'embrasse tout entière. Adieu, adieu, bonne, belle, chère Louise. Je t'embrasse partout, 1000 tendresses. Je fais tout alentour de ton col un collier de baisers. Adieu, adieu, pauvre chère femme bien-aimée. Je t'embrasse comme je t'aime, tendrement et chaudement. Je t'embrasse sur les 2 joues et sous le menton, à la plus grasse place blanche. À toi, chère femme, à vous de tout cœur. 1000 baisers sur tes yeux. Adieu, ma chère, adieu. Adieu, bonne chère femme, je t'embrasse. Adieu, ma pauvre chère vieille féroce. Je t'embrasse sur tes plumes et tes poils. Adieu, adieu, bonne chère muse. Adieu.
Love Me Tender à la CAFPO avec Mélanie Prochasson. Merci beaucoup Mélanie pour ce voyage dans les lettres de Gustave Flaubert à Louise Collet.